If you could take your seats, please, I think we're ready to start. This, of course, is a very difficult session because you've all been enjoying lunch and sauntering back. The other part of this particular session is the time you usually take a nap after lunch. And what we've done is what I did when I was a federal trial court judge. If I saw any member of the jury nodding off, I gave a signal to my bailiff and they lowered the temperature. And I'm going to impose that upon you today. If anyone starts nodding, it'll get colder in here. But we won't freeze you.
Si vous commencez à vous endormir, je vais demander à un des assistants de baisser un peu le thermostat afin de vous réveiller, de vous garder au frais. Cet après-midi, nos orateurs n'ont pas écrit quoi que ce soit. Ils ne savent pas ce dont on va parler. C'est un peu comme un entretien. Et nous allons donc discuter de choses qu'ils font et de qu'ils ont pu accomplir dans leur carrière. Donc, j'aimerais vous rassurer que
they are good friends of mine.
Ce sont de bons amis à moi et ils m'ont fait confiance. Et si ça marche bien, je continuerai à dire qu'ils sont des bons amis après 1h45 de discussion. Donc je vais leur poser des questions et ensuite vous pourrez poser vos questions. Nous allons donc parler de notre thème de cette conférence en tant que d'un point de vue de juge. Comme vous le savez, le système juridique a beaucoup à faire avec les droits religieux et n'a pas le contrôle sur tout, mais a beaucoup à faire sur les droits religieux. Nous allons donc parler de sujets très intéressants.
They recall, and so they have no notes and nothing to read to it.
Aucun brouillon ou quoi que ce soit.
We pick these particular people. Well, to my right is Chief Justice retired.
Nous avons choisi ces personnes. Nous avons choisi Zaki Azmi, qui est, j'étais un chef juge aussi sur le 9e circuit, sur la côte du Pacifique. Et Monsieur Zaki Azmi et moi-même, nous nous sommes rencontrés et il m'a invité à parler en Malaisie. Il est maintenant à la retraite et il voulait que l'on discute de sujets qui l'intéressaient et ça fait plusieurs années que l'on discute et il a fait un travail formidable. Le travail le plus formidable que j'ai avec qui depuis de tous les juges que je connaisse en 40 ans de carrière. Il y a eu beaucoup de problèmes en Malaisie et
which is the key court
is. Et maintenant la cour
it has virtually no backlog at all.
Et s'est adapté, il a réussi à aider à améliorer le système dans son propre pays. Donc il sera l'un de nos orateurs. Monsieur Anthony Penrose Anderson, qui est de la Nouvelle-Zélande, siège aussi la cour la plus importante d'appel de la Nouvelle-Zélande. Et une des choses qui va être intéressante à apprendre, la Nouvelle-Zélande a, nous le savons, ses problèmes.
C'est
que son église, l'église anglicane de la Nouvelle-Zélande, lui a demandé de s'occuper des soucis dans les îles du Pacifique Nous qui savons très peu et nous en apprenons souvent très peu à propos de ça. Donc, entre ces deux individus, nous pourrons. Je leur demanderai les mêmes questions à chacun d'entre eux et ils pourront ensuite vous aider à comprendre ce qui se passe en Asie du Sud-Est et dans les îles Pacifiques. Nous parlerons aussi, je pense, d'autres choses qui se passent ailleurs dans le monde. Et donc, nous allons commencer avec la première question au juge Zaki Azmi. J'ai vu dans ce livre que la Malaisie, et on parle de la Malaisie 4 fois dans ce texte, cet article dans ce livre, et qu'il y a certains problèmes en Malaisie. La Malaisie est un pays islamique. Et depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a eu beaucoup d'immigration. Et donc, le pays a changé entre l'avant et l'après-guerre. Nous voyons une population d'immigrés. Etc.
Has this brought to your country, where before World War II is just a cozy little community?
Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ces différences? C'est devenu un pays métropolitain. Quels sont les problèmes auxquels vous devez faire face? Merci, juge Wallace. Et merci à tous ceux qui ont organisé ce symposium de m'avoir invité ici. Je suis honoré d'être avec vous.
If you permit me a few minutes back Malaysia to tell you what.
Laissez-moi vous parler un peu de la Malaisie et comment notre système est 60% de notre population aujourd'hui est musulmane.
Bouddhistes.
Le reste est hindou, bouddhiste et chrétien.
Bouddhistes, they came to work on our tin.
Ces gens sont donc venus, ces bouddhistes, ces hindous sont venus au 19e siècle travailler chez nous. Et les Indiens
brought in by the British.
Sont arrivés par avec la colonisation britannique.
57. Because of course when a country faces
lorsque religion and il y a de nombreuses religions dans un pays
in every respect
the nous sommes différents de face de les Chinois, les musulmans qui sont bouddhistes, les Chinois qui sont bouddhistes, les musulmans.
And we have a group of people.
Nous avons un groupe de personnes de l'île aussi, et nous avons des langues différentes. Nous mangeons des choses différentes, nous nous habillons différemment. Alors nous sommes tous très différents, et malgré cela,
we have been living quite quite well together.
Et nous vivons bien ensemble.
Judge Wallace, the most important difficult challenge that we face are the politicians. The politicians would like
les politiques
for their own ends. I know there are no politicians here. There are no Malaysians.
Qu'il n'y a pas d'homme politique ici de la Malaisie, mais si je dis cela, si je vais dire cela ici, je vais être très impopulaire.
Quite well together.
Nous vivons bien ensemble, nous respectons dans le pays. Je pense que le juge Wallace est venu de nombreuses fois et il pourra sûrement être d'accord. Nous vivons donc en paix ensemble. Mais lorsque les politiciens viennent s'impliquent, voici les problèmes qui arrivent. Et nous, les juges, nous devons décider, mais quelle est la loi? Qu'est-ce que la loi? Et nous devons interpréter la loi et prendre des décisions selon la loi. Mais cette position ne va pas toujours plaire à certains groupes de politiciens ou certains groupes, certaines communautés du pays. Mais en tant que juge, c'est notre devoir de décider. Et parce que nous devons faire une combinaison entre les pays musulmans et non musulmans.
Non-muslim again.
Et il y a des soucis, comme nous sommes un pays musulman, il y a certaines personnes qui veulent redevenir un pays non musulman. Des soucis comme des personnes qui se convertissent à l'islam ou l'inverse, d'un niveau éthique. Les musulmans vont dans différents systèmes, la charia.
Whereas the non-Muslim go to the civil courts, then comes the problem where.
Et il y a aussi lorsqu'un parent est musulman, l'autre ne l'est pas. Il y a des disputes. Quel culte doivent-ils suivre? Nous devons faire face à ces problèmes. Mais ces problèmes sont très minimes. Et nous, en général, nous arrivons à vivre bien ensemble. Je crois qu'il est important aussi de se souvenir que la Malaisie est différente. Ce n'est pas un melting pot. Ils ont gardé leurs traditions. Et ils ont aussi construit des rapports entre les peuples. Donc ils ont une identité générale.
I think people don't really get the idea.
Tony, je ne sais pas si les gens comprennent dans les îles Pacifiques. On parle de beaucoup d'îles en fait. Peut-être que vous pouvez nous montrer. Quelque chose à propos de ce qu'on parle ici, quand on parle des îles Pacifiques. Vous pouvez éteindre, s'il vous plaît.
Yeah, that one's fine. Good. Thank you. There we are.
Okay, well, before I just talk briefly about this map, may I say how honored and privileged I am to be invited to come here.
Avant de commencer, j'aimerais juste vous remercier de l'occasion que j'ai d'être ici. Venant d'assez loin, c'est une occasion unique pour nous d'être exposés à tant de nations partout dans le monde.
But I hope that
j'ai pensé que je pourrais éventuellement vous donner quelques petites informations concernant la Nouvelle-Zélande et quelques-unes des îles du Pacifique. Et en faisant cela, je vais aussi vous expliquer concernant leur situation juridique.
Nous
voyons
que
les îles du Pacifique sont assez exclues du cercle des.
Most of you will have heard.
La plupart d'entre vous connaissez l'Australie et vous avez sûrement été là-bas. Et la Nouvelle-Zélande ne fait pas partie de l'Australie. C'est une nation complètement séparée ici dans ces îles. Pour mentionner quelques-uns des endroits dont je vais parler, comme Fidji ici, l'ensemble des îles qui se trouvent juste là, Tonga. Juste ici, les Samoa américains qui sont par là, et Tuvalu qui est juste ici au nord, et aussi les îles de Salomon qui sont juste là. Et voilà la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui est dans le sud-ouest des.
20 in New Zealand, about 4 million.
Et donc à peu près 30 millions, 20 millions d'habitants et 30 millions en Nouvelle-Zélande.
States will probably be familiar with.
Les États-Unis qui viennent des États-Unis sont sûrement plus familiers avec la Micronésie et qui connaissent les petits États comme les îles Marshall et la Polynésie juste ici et la Macronésie à gauche là-bas. Voilà, ceci crée en fait le contexte. dont nous allons parler ce soir, cet après-midi.
Unblank that. Is that gone?
Okay. See what I mean by big?
Now, donc vous voyez ce que je veux dire quand je dis grand. Une des choses que j'aimerais adresser.
As their growth is concerned.
Pour parler de la croissance dans les 10 dernières années, qu'est-ce que vous avez vu les 10 dernières années qui a changé à propos des cultures et des peuples? Qu'est-ce qu'on a qui est différent aujourd'hui?
D'abord, je pense qu'il y a une difficulté assez importante, comme cela a toujours été avec la communication et les déplacements. Et seulement de se déplacer d'une île à l'autre, c'est assez difficile et ça prend beaucoup de temps et c'est assez cher. Et donc, même l'accès à la technologie est retardé là-bas, en fait.
Je
me déplace souvent dans ces îles du Pacifique et je vais rendre visite aux juges là-bas et aussi les dirigeants les organisations spirituelles. Et je prends note des difficultés auxquelles ils font face. Mais dans termes de cohésion sociale, je pense qu'il est juste de dire que les îles du Pacifique, en général, il y a certaines nations qui sont plus stables que d'autres, mais la plupart des îles ne sont pas très stables d'un point de vue sécuritaire. Il y a beaucoup de changements. Et par exemple, dans les îles Fidji, il y a eu en fait un coup militaire et un gouvernement par décret et qui a remplacé tous les juges et a établi un règne tout à fait autoritaire. Et aussi, il s'est débarrassé de certaines églises aussi à Fidji. Et je peux citer un certain nombre d'autres îles du Pacifique qui ont autant de problèmes de sécurité. Grande pauvreté. Et aussi, qui est quelque chose de montant, un problème montant. Ici, c'est ce qui concerne les normes des droits de l'homme qui ne sont pas aussi reconnues dans les coutumes traditionnelles là-bas. Il y a vraiment, en fait, une opposition entre les normes internationales et certaines des constitutions et des provisions qui ont été adoptées et que nous essayons de unir avec ces forces en conflit. Et c'est assez intéressant. Je vais aller plus en détail là-dessus par la suite.
Nous avons parlé à cette conférence des choses qui changent dans le pluralisme. Et on pense qu'il y a du pluralisme, mais est-ce que toutes les îles du Pacifique ont cette influence pluraliste?
Je pense qu'ils ont besoin d'être un peu plus homogènes. Il y a un certain nombre de personnes d'autres nations, en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis et en Angleterre, qui aident de plusieurs manières. Et ce sont des mentors, des supporters et des tuteurs pour aider en fait ces îles. Pour les aider à comprendre et à accepter le concept de pluralisme. Et ce sont des concepts assez où ils impliquent les gens de l'extérieur.
Juge Azmi, vous nous avez dit que les gens gardaient leur propre identité en Malaisie, que vous vous entendiez bien, mis à part cette idée politique que vous avez abordée.
Malaysia was mentioned as
dans le livre que je mentionnais, on a parlé quatre fois de la Malaisie au niveau des restrictions religieuses. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu des restrictions qui existent et comment est-ce qu'elles influent le système malaisien?
Bien que notre constitution offre une certaine liberté religieuse et que certains puissent exercer leur religion librement, il y a certaines restrictions qui sont incluses. Et l'une des restrictions ici, c'est que parmi les musulmans, Vous n'êtes pas censé faire du prosélytisme parmi les musulmans. La Constitution fait mention de cela. Et ajoutant un coup d'œil au deuxième sens.
But you must go back to
1950. Ici, ça n'a peut-être pas autant de sens, mais vous devez retourner un peu en 1957, lorsque nous avons obtenu notre indépendance. Donc la condition des musulmans.
We got 9 sultanates, the country with the largest number of monarchs in one
country. Donc il y a en fait plusieurs règnes là-bas. Sous-règne dans les îles et ils veulent tous protéger leurs croyances et donc ils ont rejeté la possibilité d'avoir du prosélytisme d'autres religions et donc ceci est inscrit dans la Constitution et là c'est un problème qui quelle était la question déjà que vous m'avez posée
la restriction je vous parlais des restrictions qui sont imposées.
One restriction that is.
C'est l'une des raisons pour lesquelles c'est par pratique. Parce que.
Marriage is part of family law.
Le mariage fait partie de la loi familiale qui est gouvernée par la loi musulmane, la charia. Donc, si vous avez un non-musulman qui se marie à un musulman. Et si une personne veut épouser un musulman, cette personne doit être convertie avant de pouvoir se marier à la personne à qui elle aime. Et ceci rend assez difficile la possibilité de certains melting pot pour que les gens se mélangent. Et les mariages non musulmans sont sous la direction de la loi de droit civil. Les bouddhistes parmi entre eux, les chrétiens peuvent se marier entre eux, même à l'église. Mais un homme et une femme d'autres religions peuvent aussi mettre sous le registre leur mariage sous le droit civil. Et donc cela, c'est une caractéristique spécifique.
The other thing is, as I said,
l'autre chose dont j'ai parlé plus tôt, et lorsqu'il y a une dispute familiale qui a trait au mariage, au divorce, aux héritages parmi les musulmans, ils vont au tribunal de la charia, tandis que les autres religions vont dans le tribunal civil. Alors est-ce que j'ai répondu à votre question ici?
Est-ce qu'il y a des restrictions dans les pratiques religieuses, mis à part le fait qu'il ne faut pas faire du prosélytisme chez les musulmans?
Ils sont, à part cela, ils sont libres de pratiquer la religion qu'ils veulent. Et même, je me rends compte que la plupart des bouddhistes et des hindous qui se convertissent au christianisme, ils se convertissent aussi au christianisme.
Je
n'ai pas en fait de chiffres pour cela, mais il y a de plus en plus d'hindous et de bouddhistes qui deviennent chrétiens et donc ils obtiennent un nom chrétien et se font baptiser. Mais le gouvernement encourage aussi les non-musulmans à devenir musulmans. Et ils ont leur organisation non-gouvernementale aussi où ils aident les non-musulmans à devenir musulmans. Mais c'est... Mais quels sont les chiffres exacts? Je ne les sais pas. Je ne les ai pas sur moi. Je n'ai pas les statistiques avec moi, mais sur la base de ce dont vous avez parlé là, concernant qui vient de ce livre, je crois que l'une des restrictions qui est établie dans ce livre, c'est que l'expansion, je parle du mot expansion d'une manière différente, du culte musulman. Ce matin, on a parlé aussi du fait que ils ne permettent pas à d'autres sectes comme la Mahdia, une nouvelle secte, de s'établir et de propager leur religion.
It's also increased substantially, like Egypt already had high inflation. Although
Alors, bien que les pays, les constitutions reconnaissent les libertés de religion, il y a certaines restrictions qui sont qu'ils ne peuvent pas observer certaines croyances qui ne sont pas conformes à l'islam. En effet, il y a plus de 50 groupes musulmans qui, y compris Ahmadiyya, qui se nomme comme faire partie du mouvement musulman. Et ceci est géré par le département religieux et de religion et le ministère du culte.
And not the federal.
Et donc ceci est géré donc au niveau de l'État et pas d'un niveau fédéral. Donc les lois qui ont trait à l'islam sont c'est une législation parlementaire au niveau de l'État. Et de plus en plus de musulmans au sein de l'islam, de personnes qui sont musulmans, pas tant les non-musulmans, il n'y a pas de restriction pour les non-musulmans de changer leur religion, il n'y a pas de restriction là-dessus.
Est-ce qu'il y a des bénéfices qui sont donnés aux musulmans et qui ne sont pas donnés aux non-musulmans?
Oui. Il y a la religion, en fait, dans la constitution dit que l'islam doit être la religion de la fédération. C'est ce que la constitution déclare. Donc, pour ce qui est des fonds reçus pour construire les mosquées, et ceci est subventionné par le gouvernement. Mais en pratique, aujourd'hui, le gouvernement d'aujourd'hui offre aussi des fonds pour aider la construction d'autres sites de culte. Mais la plupart de l'argent vient des dons qui sont faits par la communauté.
Qu'est-ce qu'on a dans les îles Pacifiques au niveau des restrictions? Je sais qu'à Samoa, le système est restreint à la religion. Dans les îles Maldives aussi, le livre en parle, qu'il y a des restrictions plus importantes. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire?
Je ne suis pas au courant de quelconque restriction avec lesquelles je suis familier. Par exemple, je sais par contre que la plupart, certaines des constitutions et des législations dans ces îles ont restriction de la pratique de religion de certaines manières. Par exemple, dans les îles Cook, ils rejettent toute autre religion autre que les quatre initialement approuvées. Et ceci peut être, sauf avec l'autorisation du gouvernement. Et donc, il y a d'autres difficultés qui découlent d'un point de vue constitutionnel aussi, parce que la plupart pays ont certaines libertés et certaines garanties qui sont offertes, données par la Constitution qui qualifient. Et ceci inclut certaines provisions telles que le droit et les libertés religion.
At the same time,
en même temps,
safety,
l'ordre public, la morale et le bien-être général et la sécurité, par exemple dans les îles Cook, sont protégés. Et donc il y a certaines provisions très spécifiques concernant des droits généraux qui, pour ceux qui qualifient,
by far fewer exceptions.
Il y a beaucoup d'exceptions. Il y a très peu d'exceptions.
In our Bill of Rights,
par exemple, dans notre déclaration de droits,
described by law and can be
certaines
in a free and democratic society, and I think that's a fairly standard.
C'est assez standard de montrer, de donner certaines protections. Qui découle naturellement de ce droit de déclaration, de cette déclaration de droit. Mais lorsque vous rentrez dans l'ère de la sécurité, de la morale et du bien-être général, et qui, en fait, rentre en conflit avec les droits de la religion, vous diminuez donc de manière considérable les droits possibles et même risque de faire disparaître tout droit possible là-dessus.
Ces droits sont donc acceptés, sauf si c'est donc ce sauf qui nous fait peut-être souci.
In a particular village may restrict them.
Par exemple, dans certains villages qui
oui, c'est vrai. Je ne suis pas vraiment familier avec certaines des situations, mais je suis au courant de systèmes matériels qui est essentiellement des chefs qui dirigent dans des villages locaux, et c'est très commun dans les partout dans le Pacifique, et c'est là des régions les plus difficiles auxquelles nous faisons face, et là où auxquelles je suis intéressé concernant les droits de l'homme et la religion. Et c'est intéressant, c'est la manière dont ces sociétés dans ces îles pacifiques fonctionnent, parce que la plupart des disputes sont résolues. Représenté non pas devant un tribunal, mais devant un chef local. Et donc les lois, les règles qui sont mises en pratique par les chefs locaux peuvent ne pas avoir rien à voir avec les droits de l'homme comme nous le percevons. Donc c'est un système très intéressant. Donc tandis que les politiciens sont nerveux en ce qui concerne les droits de l'homme qui sont très difficiles à vendre aux gens, à présenter aux gens, à imposer et à mettre en vigueur.
Vous disiez tout à l'heure, vous parliez de
religious rights.
Des lois des droits religieux.
But in the remote areas of the island jurisdiction,
dans certaines îles égarées, il n'y a pas de policiers qui se promènent pour surveiller si les lois sont bien appliquées. Qu'est-ce qui se passe s'il y a des problèmes entre les lois nationales et les lois coutumières?
Là, c'est une question très difficile à répondre et même trouver une résolution là-dessus. Trouver même un tribunal où on peut trouver une résolution sur place, et même dans les villages. Si nous jetons un coup d'œil là-dessus, d'un point de vue des droits universels des droits de l'homme, voir une situation, par exemple, où si une femme est violée par quelqu'un qui est condamné par par une communauté locale et que les charges sont présentées devant un tribunal civil, la loi sera appliquée pour protéger cette femme. Désolé, il serait exonéré au village, mais donc les lois civiles chercheront à protéger cette femme. Et donc ceci va à l'encontre donc, de certaines cultures des îles du Pacifique. Et donc, encore une fois, et donc, d'un point de vue international, du point de vue des droits de l'homme, ce n'est pas acceptable.
Azmi, nous avons parlé.
Massive changes.
Il y a de nombreux changements qui se passent en Malaisie. Vous n'avez pas de cheveux blancs, mais pas encore. Donc vous pouvez encore voir ce qui va se passer dans le futur, mais avec les sociétés pluralistes, qu'est-ce que vous pensez qui va être les changements les plus importants que la Malaisie va devoir auxquels la Malaisie va devoir faire face au niveau des religions?
Je ne perçois pas de changement majeur en ce qui concerne la religion. Ce qui va venir, je Je peux prévoir que les musulmans vont continuer la manière dont c'est maintenant. Et j'aimerais exprimer, et là c'est ma vision personnelle.
For the sake of
pour le bien-être de la société et
people improving the relationship with each other.
Pour améliorer les relations entre les personnes dans la société.
Islamic religion,
la religion, l'islam a beaucoup de restrictions.
We don't drink.
Nous ne buvons pas. Nous ne
marry a non-Muslim.
Nous ne mélangeons pas les sectes. Nous ne pouvons pas nous marier à des non-musulmans, tandis que les autres religions sont libres. Ils mangent pas. Et donc, je pense que les non-musulmans, les communautés non-musulmanes peuvent s'entendre entre eux. Et
together with the non-Muslims.
Et essayer de mélanger les musulmans et les non-musulmans, d'un, mon point de vue, va être très difficile. Ma femme est ici. Elle se couvre la tête et son chevelu parce qu'elle est musulmane et la plupart des musulmanes font cela. Mais ceci est requis de par notre religion et nous ne pouvons pas éviter cela. La religion nous interdit de faire certaines choses et nous pensons que c'est la bonne chose. Alors nous obéissons à ce que la religion préconise. Donc pour l'avenir, je pense que ces choses vont aller de la même manière pour en Malaisie pour en ce qui me concerne. Et la proportion des musulmans en Malaisie entre ceux qui ne sont pas musulmans, c'est 60 et 40%. Et en Indonésie, je pense que la proportion est 90% musulmans et 10% non musulmans. Et au Singapour, il y a 15% seulement de musulmans.
Saudi Arabia is almost 100% Muslim. So,
en quelque sorte, c'est là ma perception personnelle.
That becomes a divide.
Ceci est un facteur séparateur d'entre ces différents groupes. J'aimerais aider les Malaisiens à se rapprocher, à être vraiment une seule race, unie, sans division. J'aimerais voir que l'on ait cette opportunité, cette occasion, mais nous ne pouvons tout simplement pas faire cela en ce qui me concerne. Mais hormis cela, nous sommes heureux, nous nous rendons visite, nous célébrons Noël.
We have what this practice called open.
En Malaisie, nous parlons de ces portes ouvertes. Nous avons ces portes ouvertes où après un mois, les familles vont inviter les amis à la maison. Et donc la dernière fois, j'ai eu à peu près 700 personnes qui sont passées à la maison. Donc pour la journée, ils viennent, ils mangent et ils passent. Et donc il y a des musulmans, des chrétiens, des hindous, des bouddhistes et tout le monde. Et à Noël, nous faisons la même chose et nous rendons visite aux gens d'autres chrétiens. Et à Bali, nous allons voir les hindous. Et même pendant le nouvel an chinois, nous allons voir les bouddhistes. Et donc nous travaillons ensemble assez bien. Je marche dans la rue à Chinatown de manière très sûre. Donc dans notre communauté, un homme chinois peut faire du business, du commerce dans notre secteur aussi facilement, mais généralement nous n'encourageons pas le flirt entre entre les sectes. Donc, mais vraiment, c'était vraiment en 1969 où il y a eu vraiment la plus grande crise après les démonstrations dans la rue entre les différentes sectes, les musulmans et les chinois. Et je pense que nous allons vivre ensemble de manière harmonieuse et pour un certain nombre d'années en continuant la même route.
Donc ce dont vous parlez, de ces idées d'une société pluraliste, met la pression sur les gens qui sont d'origine, là, ils doivent garder ces principes. Nous ici, les Mormons, nous avons un peu cette idée. Ils ont peut-être peur que certains vont quitter la religion, mais vous dites qu'ils peuvent garder leur religion et d'être dans une société homogène.
Oui, je crois que je peux répondre là-dessus. Parce que la Malaisie est une communauté de melting pot, où il y a eu les Dutch, il y a eu les Néerlandais, les Anglais qui sont venus en 69 et qui ont amené les Chinois de Chine et les Indiens de l'Inde.
Indians to work in the rubber plantation.
Les Indiens pour travailler donc dans les champs et les Chinois pour travailler dans les mines, et donc ceci est devenu la Malaisie, et donc nous avons donc les Métis au sud et donc vers Sabah, cela, et il y a les Métis là-bas
les natifs,
les aborigènes, donc il y a les chrétiens et aussi les musulmans parmi eux, et donc hormis cela, je dirais que nous vivons de manière assez harmonieuse. Et comme je l'ai dit auparavant, je peux aller dans la rue de Kuala Lumpur sans me soucier de ce que quelqu'un m'agresse. Comme c'est le cas dans les villes américaines.
Il y a des problèmes à Washington. Et alors les îles du Pacifique, est-ce que c'est... Alors que ces épreuves continuent, quels sont les défis que vous voyez qui vont continuer?
Je pense que, de manière générale, les nations des îles du Pacifique sont assez conservateurs dans leur manière d'agir. Et le changement va survenir très doucement. Je peux dire, par exemple, que dans le cadre de mon travail, dans les îles Salomon, il y a 70% des populations là-bas et adhèrent à la foi anglicane, et en essayant d'obtenir un peu de changement là-bas pour que les femmes fassent partie du clergé. Et c'est quelque chose que nous avons fait, une proposition que nous avons présentée avec l'archevêque là-bas, et c'était assez négatif. Il n'y a aucun désir de considérer un changement possible. C'est juste un secteur dans lequel, ce dont j'ai parlé, il y a une certaine détachement à des changements possibles. Je pense que ça va se... Il va venir un moment où il va y avoir quelques surprises dans ces régions. Je peux parler par exemple de Wallou, qui est une île très petite. L'État qui récemment s'est vu voir certaines situations qui se montrent dans les tribunaux avec certaines femmes qui souhaitent établir une petite église à Wallou. Elles ont été attaquées par décret émis par les anciens du village, y compris la lapidation, et finalement elles ont été rejetées de l'île par les locaux et les anciens, et donc le cas a été présenté à des tribunaux d'instance de cassation à Wallou, et donc il y a eu un cas où en fait la constitution, par exemple, nous avons une expression en Nouvelle-Zélande, c'est une Clayton, une constitution de Clayton. C'est une constitution par défaut, quand on n'avait pas de constitution. Ça dit, la liberté de religion est protégée ici, mais ce droit peut être restreint lorsque c'est nécessaire. Si l'exercice de ce droit divise la société, ou offensif au peuple, ou peut directement menacer nos valeurs et notre culture. Je n'ai jamais vu une exception si générale selon les normes internationales. Mais la première cour, le premier tribunal a trouvé que l'exception s'appliquait et que ce n'était pas en fait une offense
that case then went
au droit de droit religieux. Et ceci est monté donc en cour d'appel, mais ceci donc qui est compris de trois juges en retraite de mon pays et qui sont allés dans cette île et donc ont eu ces audiences. Donc c'est intéressant parce que vous avez donc les situations, vous avez des poules et des cochons qui passent sous cette tente. Et donc ça fait partie en fait des amusements d'être un des juges dans la région là-bas. Et donc pour l'instant, ils sont unis sur la décision que la décision devrait être concernant donc le rejet de cette de parce qu'ils sont en résumé dit que ceci était correct parce que ça allait générer un tel tumulte dans la société que comme c'est inclus dans cette exception qui a été mentionnée, ceci rentre dans le cadre de cette clause. Dans ce cas en particulier, pour que la...
Right.
Tout, comme je l'ai dit, la cohésion sociale ne devrait pas écraser le droit religieux. C'est pour l'instant en fait le résultat de cette situation, mais je pense qu'il y aura un autre chapitre à cette histoire, parce qu'il y a un droit de faire appel aussi aux tribunaux d'Angleterre et leurs droits vont s'exercer. Et nous allons en fait entendre cela des lords Down Street en Angleterre et pour comprendre l'interprétation de ces deux valeurs et comment interpréter cette clause dans cette constitution. Je pense qu'il y a certaines lois dont, d'un point de vue du droit, les cours européennes seraient très intéressées.
Before I receive the new next question.
Avant de répondre à la question suivante, j'aimerais rajouter que la population de la Malaisie est de 27 millions et notre gouvernement est fait de personnes de toutes races et de religions. Je voulais juste clarifier. Et un autre fait que je n'ai pas dit, c'est que les hindous ne mangent pas de bœuf. Les musulmans ne mangent pas de porc. Alors, quand j'ai à la maison un hindou, je ne dois pas servir de bœuf. Ou si c'est un grand groupe que je reçois, nous devons être certains que le bœuf est séparé. Et les hindous, lorsqu'ils m'invitent, évidemment, ne servent pas de porc lorsqu'ils me reçoivent. C'est le respect que nous avons entre nous. J'aimerais parler de la cour. Quel est le rôle de la cour? Quel devrait être le rôle de la cour en Malaisie avec cette idée pluraliste en Malaisie? Est-ce que vous pensez qu'il y aura d'autres changements qui vont arriver? Est-ce que vous voyez le rôle du tribunal, de la cour? Vraiment, oui.
Je pense que oui, c'est garanti par la Constitution. Et pour jusqu'ici, à part les disputes qu'il y a eu entre les mariages, dans les mariages mixtes, musulmans avec non-musulmans, et pour que les musulmans deviennent aussi de non-musulmans après mariage et qu'ils aient eu des enfants, ceci n'est pas été vraiment un problème qui était présenté devant les tribunaux civils. Le problème qui se présente à nous, comme mentionné auparavant, où les parents musulmans, après un certain temps, aussi l'un des parents décide de devenir un non-musulman et qui se dispute pour la charge des enfants, qui va obtenir donc la garde des enfants. Et c'est un problème qui est survenu. Et dans le fond, les fonds civils, le tribunal civil a décidé que c'était peu fait partie de la juridiction de la loi charienne. Et donc je ne sais pas si c'est bien ou non, mais c'est là ce que s'est décidé.
Et donc dans les îles du Pacifique, est-ce que la Cour prendra un rôle plus important? Les sociétés pluralistes continuent à grandir et le rôle des cours.
Je pense que c'est. Il faudra un certain temps avant que cela se produise. Ça viendra, mais juste la logistique de présenter les cas devant les tribunaux dans les îles du Pacifique rend cela assez difficile. Il y a des juges très affûtés là-dessus, mais ils sont très peu. Par exemple, dans les îles de Salomon, il y a dans le cadre judiciaire et des cours supérieurs, il y a seulement 5 juges. Il y a comme 300 îles, je pense, qui forment les îles Salomon, le groupe des îles Salomon. Les juges sont sur l'île principale, mais pour ceux qui sont des États-Unis, dans la Deuxième Guerre mondiale, le courant de cette île, Canal là-bas avec durant la bataille des mers des corails. Là-bas, les gens sont répandus sur toutes ces îles. Et d'un point de vue de la cour, de la logistique, donc il est difficile de s'établir dans ces villages. Il y a des magistrats qui sont qualifiés légalement, d'autres qui ne le sont pas, et qui, en fait, sont répandus au travers les îles. Auxquels on peut faire appel de temps en temps pour faire face à certains cas qui surviennent. Et donc des cas similaires à ceux auxquels font face les juges dans la cour européenne. Et donc il y a certaines choses qui se sont présentées au tribunal concernant les valeurs. Et c'est un système qui est établi pour faire face à cela. Mais récemment, il y a eu pas mal de travail par une commission en Nouvelle-Zélande qui est un gouvernement appointé pour aider à adresser ces sujets particuliers. Et lorsqu'il y a en fait un conflit dans le cadre des droits de l'homme, dans certains cas, et ce groupe est venu avec quelques solutions assez intéressantes pour certains de ces conflits. Et il y a tout type de domaines dans lesquels il peut trouver réconciliation.